présence La famille et vous.
La famille et vous, c'est avec Isabelle Duché qui arrive en plateau. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Et ce matin, c'est un sujet difficile que vous nous proposez, les étapes du deuil. On va parler de la mort aujourd'hui et vous voulez notamment nous présenter quatre premières étapes du deuil. C'est une première chronique qui sera suivie d'une autre la semaine prochaine.
Hein. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il y a huit étapes. Alors, c'est vrai que bien que difficile, ce sujet me paraît essentiel, la mort faisant partie de la vie. Mmh. Et ça, c'est important de le rappeler.
C'est vrai.
Qui, cette dernière année, n'a pas connu un deuil ou au moins une personne qui a perdu un proche? Nous avons donc grandement besoin de connaître le processus de deuil afin de savoir où nous en sommes, si nous sommes nous-mêmes en deuil, ou bien ou être attentifs à ce que vivent nos proches. Alors, je me suis, pour préparer cette chronique, appuyée sur un très bel ouvrage qui s'appelle « Excusez-moi, je suis en deuil », écrit par Jean Monbourquette, un prêtre et psychologue, et Isabelle Dapremont. Et puis à Toulouse, il y a aussi une formatrice en développement personnel qui s'appelle Dorothée Fournier, qui accompagne notamment les personnes en deuil. Voilà, alors je vous ai fait ces petites présentations. Je voudrais maintenant vous apporter deux précisions. Premièrement, le travail de deuil est un long processus, ça se fait pas en une fois. Mmh. Les étapes que je vais vous présenter ne sont pas linéaires. Ça signifie que vous pouvez passer d'une à l'autre et puis revenir, par exemple, sur l'étape précédente. Mmh. Deuxièmement, et ça c'est une bonne nouvelle, pour Jean Monbourquette, il est certain qu'on peut guérir de la mort d'un proche. La peine peut disparaître, même si, évidemment, le souvenir de la personne décédée reste.
Donc ça, c'est important, effectivement, la peine peut disparaître. Oui. Alors, parcourons maintenant les quatre premières étapes du deuil. Quelle est la première, Isabelle?
Alors, la première, tout deuil commence par un traumatisme psychique suivi d'un choc. L'endeuillé est en situation de stress aigu, accompagné souvent d'un sentiment d'impuissance. Il ressent une grande confusion, perd ses repères, sa mémoire est comme gelée. Et ce gel de la mémoire et des émotions protège en fait la personne en deuil. Vous voyez, c'est bien fait. Le choc fournit le temps de se ressaisir, de digérer la dure réalité de la mort et de puiser en soi-même les ressources nécessaires pour gérer la situation de perte. Mmh. Alors, cette situation de choc dure de quelques semaines à quelques mois, 4 ou 5. Évidemment, si ça va au-delà, il faut s'inquiéter quand même.
Et comment on la passe, cette étape du choc?
Alors, la traversée du deuil demande beaucoup d'énergie physique et émotionnelle. C'est donc pas le moment de prendre de grandes décisions.
Ah oui.
De plus, se recueillir devant le corps du défunt, le voir, le toucher, aide à convaincre que l'être aimé est bel et bien mort. Il faut réveiller cette mémoire gelée, hein, comme je vous y disais.
Mmh.
C'est cette étape qui manque cruellement dans la période de pandémie que nous vivons. En outre, l'aide des amis est ici cruciale. Organisation des repas, de la maison, prise en charge des enfants. Et enfin, pour aider un proche à sortir du deuil, de cette étape de deuil, il est très utile de l'inviter à raconter les événements qui ont entouré la mort du défunt.
Ah oui ?
Vous allez voir, il va la raconter de multiples façons, avec différents détails à différentes personnes. Et c'est le signe que la mémoire se dégèle et sort de sa torpeur.
Mmh. Et alors, passé ce choc traumatique, que vit celui qui vient de perdre un proche ?
Alors, il entre dans une phase de déni.
Déni,
carrément. Il refuse de se souvenir de la mort d'un proche. Il évite tout ce qui peut lui rappeler la mort. Ce sont des résistances cognitives. Mmh. Il refuse d'aller à l'hôpital. Il refuse d'entrer dans le cimetière, par exemple. D'autre part, il manque d'affect. Il est incapable d'éprouver les émotions propres au deuil. Ce sont des résistances émotives. Les hommes, surtout ceux qui n'ont jamais appris à pleurer ou jamais osé les séparer de leurs émotions, sont particulièrement concernés. D'autre part, certains idéalisent le défunt et lui attribuent des qualités exceptionnelles. Enfin, certaines personnes endeuillées peuvent être très en colère. Et là, colère contre le défunt, les médecins, le prêtre, ne nous y trompons pas, cette colère est en fait une forme de tristesse.
Mmh. Et quels sont les pièges à éviter pendant ce temps de déni?
Alors, le déni peut pousser à vouloir remplacer le défunt par une autre personne, un nouveau conjoint, un nouveau bébé. Ou bien, autre piège, entrer dans une phase d'hyperactivité. Ou quand il s'agit de la mort d'un enfant, c'est de négliger les autres enfants. Et dans notre société qui occulte la mort, on peut être tenté de cacher sa souffrance et se sentir honteux d'être en deuil. Et donc, un quatrième piège, c'est de se réfugier dans le silence, l'alcool, la drogue, les antidépresseurs. Hein. On cherche à geler ses émotions. Et là encore, les proches, par leur écoute, leur tendresse, leur proximité, la préparation aussi de bons petits plats peuvent aider l'endeuillé à sortir de ce déni.
Ah, ben ça, je vous reconnais bien là, les bons petits plats. Vous déroulez pour nous les quatre premières étapes du processus de deuil. Après le choc et le déni, que vit la personne endeuillée?
Alors vient alors le déferlement des émotions, tristesse, peur de l'abandon, colère, culpabilité. De plus, les sentiments propres au deuil se présentent comme ceux d'abandon, d'anxiété, d'impuissance et de libération. L'enjeu pour bien traverser cette étape du deuil, c'est de laisser exprimer ses émotions et ses sentiments, prendre le temps de s'arrêter, prendre conscience de ses besoins importants. Pour aider l'endeuillé, là encore, il est bénéfique de lui faire raconter les circonstances de la perte de l'être cher et lui demander ce qu'il ressent. Vous voyez, on passe une étape là. Un ami peut aussi aider à prendre temporairement congé du deuil, je le mets entre guillemets, en proposant une promenade, un film ou un repas aussi.
La quatrième étape du processus de deuil arrive, quelle est-elle, Isabelle Duchy?
Alors, vous savez, ce sont toutes ces petites tâches à accomplir, exécuter les dernières volontés du défunt, suivre les rituels funéraires, trier, donner les affaires du défunt et les photos le concernant. Alors, en ce qui concerne l'exécution des dernières volontés du défunt, il faut agir avec discernement, car certaines promesses faites sous le coup de l'émotion peuvent devenir intenables.
Par exemple?
Alors, par exemple, un homme qui s'était engagé auprès de sa femme, qui était sur le point de mourir, a trié tout ce qu'il y avait dans le sous-sol. C'était au-dessus de ses forces. Et puis, finalement, il a réussi à le faire. Et en fait, ça a fait remonter tellement d'émotions. Il a beaucoup pleuré. Et en fait, c'était pour lui une étape de deuil. Ouais. Alors, pour le tri des affaires du défunt, donc faut mieux pas se précipiter. Mais si vous sentez que l'endeuillé est prêt, vous pouvez l'encourager. Et puis, pour les photos, alors, inutile de tapisser votre maison avec moult photos, mais en revanche, en garder une ou faire au moins, enfin, en garder une dans sa maison et puis faire un album photo, pourquoi pas, et aller l'aider, ça peut être une bonne étape de deuil. Voilà pour ces quatre premières étapes du processus de deuil. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter les quatre autres.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Duchet pour cette chronique difficile, douloureuse, mais vous l'avez dit en préambule, nous sommes concernés cette année par le deuil. Nous écouterons les quatre prochaines étapes la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Isabelle.